En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
L'eau est sans doute l'enjeu majeur du 21e siècle. Alors l'eau va-t-elle manquer, et cela partout dans le monde, cette ressource dont les privilégiés que nous sommes pensaient jusqu'ici qu'elle était inépuisable? Est-elle aujourd'hui devenue un trésor convoité? Guylaine Marcilly, membre de l'Académie des sciences et professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, spécialiste des questions de l'eau dans le monde, nous apporte des éléments de réponse à ces questions au cours d'une conférence donnée au Bureau des Longitudes en mai 2011. Pour suivre au mieux ces explications, nous vous invitons à télécharger le support visuel de sa communication sur le site de Canal Académie. On retrouve tout de suite Guylaine de Marcilly.
Est-ce que nous allons manquer d'eau? C'est une question qu'on a tous un peu à l'esprit. Et je vais tout de suite vous rassurer, il y a des endroits de la planète, et ceci en est un, c'est dans la zone tropicale, c'est aux confins de l'Argentine et du Brésil. Ça s'appelle les chutes d'Iguassu, c'est absolument superbe. Et j'ai eu la chance de m'y balader en octobre 2005 en cru. Donc vous aviez 18 000 mètres cubes secondes d'eau qui passait devant vous en bouillonnant, c'était absolument superbe. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours de l'eau dans ces endroits comme ça. Alors c'est peut-être moins vrai dans le désert. Et si on a, ça c'est en Tunisie, on parlera tout à l'heure de la Tunisie, si on regarde une même image de cette palmeraie quelques années après, c'est moins joli. Donc la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que c'est ça qui nous attend? Autrement dit, dans les zones désertiques, et c'est possible que la diminution des ressources en eau puisse conduire à des choses pareilles. Dans le cas qui nous intéresse, ce n'est pas directement un problème d'eau, c'est un problème de salinisation des sols. Les irrigations qui ont été faites ont été mal conduites, le sel qui s'accumule n'a pas été drainé et les palmeraies sont mortes par manque de, par excès de sel, non pas tellement par manque d'eau, bien que ce soit lié. Alors, voilà quelques références. Le dernier rapport, celui-ci, hein, Sciences et technologies numéro 32, c'est le dernier rapport de l'Académie sur les sciences et technologies. Ce rapport a été coordonné et animé par Jean Dercourt, qui est ici, et je le remercie de sa présence. Il s'appelle « Démographie, climat, alimentation mondiale ». Il est paru en mars, donc c'est tout récent. Il est disponible chez éditions de physique et d'épée. Et pas mal des éléments que je vais vous raconter proviennent de ce rapport, ainsi qu'un rapport édité en 2009 par AgriMonde, c'est-à-dire l'INRA et le CIRAD, qui parle de ce même problème que nous allons un peu essayer d'aborder, qui est le problème de l'eau et de la nourriture. Alors, je vous dirai tout de suite que je ne parlerai pas de qualité des eaux. Ce serait un sujet à lui tout seul, donc aujourd'hui je ne parlerai plutôt ressources, quantité, besoin, hein, et moins des problèmes de qualité. Alors, quelques rapides images, une vision totalement erronée que le grand public et la presse en général possèdent sur les problèmes de l'eau, c'est qu'on commence à vous dire que le stock d'eau douce sur la Terre est de l'ordre de 2% du stock total de l'eau. C'est vrai. C'est vrai, hein, les chiffres sont là, je les ai mis là. Il y a 1335 milliards de kilomètres cubes d'eau salée et 43 500 kilomètres cubes d'eau douce. Mais ça n'a rien à voir avec le problème de l'eau. Hein. On aurait des océans deux fois plus profonds, deux fois plus riches en eau. Bon, on n'aurait plus que 1% d'eau douce. Qu'est-ce que ça fait? Ça n'a aucune importance. Le monde vit non pas sur les stocks d'eau, mais sur les flux d'eau. C'est-à-dire qu'est-ce qui circule chaque année au sein de l'atmosphère, parce qu'on va appeler le cycle de l'eau, et que nous captons dans les rivières, dans les nappes, dans tous les continents. Donc le volume d'eau douce par rapport au volume de salée est une question scientifiquement intéressante. Mais il ne faut pas commencer à faire peur aux gens en disant « on n'a que 2% d'eau douce, tout va mal hein ». Alors ici, vous avez les stocks et les flux, la figure est un peu plus compliquée, mais comme on va passer un instant sur ce problème du cycle de l'eau, je passe rapidement. Voilà les chiffres quand même, ça c'est l'eau douce, hein, c'est pas l'eau salée. Celui-là en bas, je n'en parle plus. Vous voyez que l'essentiel des glaces constitue le stock d'eau douce, 65% des glaciers. Si on se repasse environ 15 000 ans en arrière, vous savez qu'on sortait d'un âge glaciaire, le volume de glace était probablement à peu près le double. Donc on avait plus d'eau douce. Est-ce qu'on était plus heureux pour autant? Je ne pense pas. La Terre était beaucoup moins habitable pendant une période froide qu'elle n'est pendant une période chaude. Donc le volume d'eau douce, qu'elle soit stockée sous forme de glace ou autre, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les flux. C'est ce qui passe chaque année par le cycle de l'eau. Bon, vous voyez ensuite, les eaux souterraines, c'est le chiffre suivant. Le reste, c'est négligeable. C'est assez surprenant. Les lacs d'eau douce, quand même, il y en a pas mal. Il y a le lac Léman, il y a le lac Baïkal, il y a des grands lacs américains. Et c'est 0,4% de l'eau douce. C'est trois fois rien. On ne vit pas sur les stocks. On ne vit pratiquement jamais sur les stocks, à part le Sahara ou quelques grandes nappes comme ça. Mais disons, nous vivons toujours sur les flux. Alors, je vous rappelle une chose importante qui est que le stock d'eau sur Terre est à peu près constant. Donc en fait, tout le monde se dit, est-ce qu'on va manquer d'eau ? L'eau ne disparaît pas. L'eau n'est pas comme le pétrole que l'on consomme et qui disparaît. L'eau, elle tourne sans arrêt. Donc on ne perd presque pas d'eau. Alors le pourquoi presque pas, c'est parce que dans la très haute atmosphère terrestre, la radiation solaire décompose la molécule d'eau et que la molécule d'hydrogène, qui est légère, échappe au champ de la gravité et disparaît dans l'espace. C'est probablement la raison pour laquelle Mars n'a plus d'eau, hein, puisque la gravité de Mars est plus faible que celle de la Terre, donc Mars a perdu beaucoup plus rapidement son eau que la Terre. En ce qui concerne Vénus, Vénus a à peu près un dixième de la quantité d'eau que nous avons sur Terre. Et elle a perdu beaucoup de son eau, probablement parce que la répartition de l'humidité dans l'atmosphère de Vénus est très différente de la nôtre. Il y a très peu d'eau dans la haute atmosphère terrestre, et il y en a beaucoup dans la haute atmosphère vénusienne, d'après ce que je sais. Alors, sur 4,6 milliards d'années que la Terre existe, on a estimé que la perte totale d'eau représenterait une lame de 3 mètres d'épaisseur d'eau répartie sur toute la surface du globe, sachant que si nous avions un continent unique dans lequel on aurait rasé toutes les montagnes et bouché toutes les fosses océaniques, on aurait à peu près 2800 mètres d'eau. On aurait une Terre couverte par 2800 mètres d'eau, on en a perdu 3 mètres en 4 milliards d'années, c'est donc pas un vrai problème. Alors, le cycle de l'eau. Excusez-moi de faire un petit rappel. Le cycle de l'eau, alors, vous avez tous vu ça, et ceci avait frappé les anciens. Les fleuves coulent sans arrêt, et le niveau de la mer ne monte pas. Surprenant. Essayez ce soir dans votre baignoire, vous ouvrez les robinets, vous allez voir ce qui se passe. Donc c'est pas normal. Deuxième anomalie, quand il pleut, que l'eau circule sur la surface du sol, se rassemble en rigoles, en ruisseaux, et arrive dans les rivières, on comprend. Mais il ne pleut pas, et ça continue à couler. C'est pas normal. Et ça coule pendant semaines, des mois. Qu'est-ce qui se passe ? Donc l'explication du cycle de l'eau, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau perte des cinq sommes. L'eau s'infiltre dans le fond des océans par un processus qui n'avait pas été vraiment très bien identifié. Eh bien, elle se dessale, elle reprend de l'énergie, mais la notion d'énergie n'était pas familière aux anciens, et elle ressort dans les sources. Donc ce que nous appelons le cycle de l'eau, c'est-à-dire le fait que vous avez de l'eau qui coule sans arrêt dans les rivières, eh bien, ça vient de ce mécanisme-là. Ce qu'on appelle le cycle perte des cinq sommes. Alors nous sommes en 1725, le siècle des Lumières, et on arrive dans le siècle des expériences. Donc un associé de l'Académie des sciences de Paris s'est dit, eh ben, écoutez, là, il y a quand même dans mon petit triangle, là, ici, dans ce espèce de domaine, il y a quelque chose qui dessale l'eau, puisque là, elle est salée et là, elle est douce. Donc il faut dessaler l'eau. Donc je vais faire une expérience. Et l'expérience est la suivante, il l'a décrit. Il a pris 19 pots de fleurs, il aurait fait l'expérience deux fois avec du sable de plage et avec de la terre de jardin. Et il verse avec son petit pot là-haut de l'eau de mer et il s'attend à retrouver à la base de ces 19 pots de fleurs de l'eau douce, puisque c'est ça qui se passe dans la nature. Alors, cette expérience a été rapportée dans la littérature et voilà ce qu'il nous dit. On suivit le même ordre dans la filtration par le sable où la quantité d'eau de 14 livres se réduisit également au poids de 5 livres et 2 onces, sa couleur se changeant en celle de vin blanc, c'est pas désagréable, un peu chargé. Le poids de 24 onces diminua à 23. Ce qu'il est en train de faire, c'est de mesurer la masse volumique de l'eau. Parce que si elle est moins salée, elle va être plus légère. Donc il mesure en unités qui sont un petit peu désuètes, en onces, en grammes et en 41 grains, ce qui veut dire 8 grains de moins. Donc en parcourant 19 pots de fleurs, l'eau aurait perdu par unité de volume 8 grains de son poids. Alors voilà ce qu'il nous dit, cette diminution du goût salé et du poids qui se trouve plus grande dans la filtration par le sable qu'en celle qui se fait par la terre montre qu'il est le plus propre à purifier l'eau et comme ordinairement sur le rivage de la mer il y a quantité de sable, on ne doit pas s'étonner si l'eau qui lui passe à travers, quoique en petite distance, devient sur le champ presque insipide. Donc par son expérience de 1725, il confirmait le cycle de l'eau perte des cinq sommes qu'avaient inventé les anciens en disant il suffit de faire passer l'eau dans un petit peu de sable et on a de l'eau douce. Si le dessalement était aussi facile que ça, nous n'aurions aucun problème sur Terre. J'ai le regret de devoir vous dire que ce correspondant de l'Académie des sciences était probablement un ancêtre. Donc quelqu'un qui vient de l'Académie n'est pas nécessairement chargé de la vérité. Alors, vous ignorez bien sûr pas que le vrai cycle, c'est le cycle perte des cinq sommes, je vais vite parce que tout le monde le connaît, c'est celui sur lequel, bon, on le connaît depuis maintenant. On le connaît depuis quand ? Depuis les travaux de Perrault sur le bassin de la Seine et sur les travaux de Halley sur la Méditerranée, hein, qui ont établi que, d'une part, le niveau de la mer ne monte pas parce que ça s'évapore, et d'autre part, Perrault a établi que sur le bassin de la Seine, il tombe suffisamment d'eau par la pluie pour expliquer que les fleuves coulent toute l'année. Alors voilà les quelques chiffres, on va aller vite. l'évaporation sur les océans et l'évaporation annuelle moyenne sur les continents. Il ne faut pas croire que toute l'eau vient de la mer. Vous avez vu qu'il y en a beaucoup plus qui vient de la mer, mais la contribution aux nuages de la part de l'évaporation sur les continents est tout à fait significative, et donc on ne peut pas dire que toute notre eau, notre cycle de l'eau, va des océans aux continents. Alors ça retombe en pluie bien sûr sur les continents et sur les océans, et vous voyez que, si je reviens sur le précédent, il partait 73 000 à l'atmosphère en évaporation sur les continents, et il tombe 113 000 en pluie. Donc on a, heureusement, plus d'eau qui nous arrive qu'il ne repart. Ce qui fait que nous avons un cycle de l'eau, et le voilà le cycle. Donc la différence entre ce qui arrive, c'est-à-dire 113, et ce qui repart à l'atmosphère, 73, tout ça c'est des milliers de kilomètres cubes. Un kilomètre cube c'est un milliard de mètres cubes, et un mètre cube c'est déjà 1000 litres, donc ça fait beaucoup d'eau tout ça. C'est à l'échelle globale, c'est-à-dire pour l'ensemble de la planète. Donc la différence entre les deux, 113 et 73, c'est 40 000, c'est ce qui s'écoule. Alors ce qui s'écoule, il y en a une partie qui sont la fusion des icebergs sur les deux calottes, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique. Ce n'est pas la glace de mer. La glace de mer, c'est de la pluie sur la mer qui se gèle. Mais ça, c'est les fusions des glaces tombées sur des continents et qui tombent ensuite dans la mer. Le reste qui s'écoule, eh bien, c'est à peu près 36 000, dont 26 000 d'eau en crue dans les rivières. Et puis, la raison pour laquelle les rivières coulent quand il ne pleut pas, c'est qu'en fait, elles sont alimentées tout au long de l'année, mais avec des débits qui diminuent, par les écoulements souterrains. Donc le cycle souterrain des eaux qu'avaient perçu les anciens, mais dans le mauvais sens, il existe. C'est l'infiltration de l'eau dans le sol qui fait que petit à petit, elle se vidange dans les nappes, et les nappes se vidangent soit directement dans la mer, soit le long des rivières. Alors ici, vous avez, c'est la terminologie, l'eau qui s'écoule, que donc peut donc capter, c'est-à-dire celle qui va dans les rivières ou dans les nappes, on appelle ça l'eau bleue. J'y reviendrai tout à l'heure. Et l'eau qui part directement, hein, c'est celle qui tombe sur le sol, qui s'accumule quand même quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois dans le sol superficiel, mais qui est reprise par la végétation essentiellement. On appelle ça l'eau verte parce que c'est elle qui alimente toute la végétation naturelle ou l'agriculture pluviale. Donc c'est en aucun cas une perte. Il ne faut pas dire que, oh là là, on reçoit 113 et on en perd 73. On ne les perd pas. Si on n'avait pas cette évaporation naturelle et la disparition de cette eau dans l'atmosphère, il n'y aurait pas de végétation, il n'y aurait pas de vie. Donc ça, c'est avec ça que nous vivons. Et l'agriculture pluviale, dont nous parlerons beaucoup, utilise cette eau-là. Alors, question que je voudrais de front vous poser, est-ce que cette eau est disponible pour l'homme? Donc le méocycle que l'on voit, combien on peut en prendre? Est-ce qu'il est à nous? Et j'ai une image qui me plaît beaucoup, qui est un éléphant qui se baigne agréablement dans le delta de l'Okavango. L'Okavango, c'est une rivière qui prend sa source dans l'Afrique, c'est une rivière de l'hémisphère austral, en Afrique australe, dans la zone tropicale où il pleut beaucoup. Et puis, petit à petit, l'eau s'écoule et finit par se perdre dans des sables en Namibie. Donc, c'est un delta interne dans lequel il y a des systèmes, des écosystèmes très, très intéressants avec de la végétation, des animaux, etc. Et cet animal ici, vous me direz qu'il en a peut-être un peu beaucoup, mais il a besoin d'eau pour vivre. Et si vous vous posez une question, un instant, est-ce qu'il y a de l'eau pour nous? Autrement dit, est-ce que toute l'eau que l'on voit s'écouler, on peut en prendre une part sans faire mal à quelqu'un? La réponse est non. Les écosystèmes ne sont pas idiots. Si nous nous plaçons 10 000 ans en arrière, où l'humanité était quand même peu présente sur la surface de la Terre, tous les écosystèmes réunis s'étaient liés pour prendre tout. Un écosystème n'est pas idiot. S'il y a une ressource, il se développe pour la prendre. Donc que ce soit dans les terres, les forêts, etc., que ce soit dans les rivières, ou que ce soit même pour l'eau qui semble perdue quand elle quitte les continents pour arriver en mer, en fait, elle entretient ce qu'on appelle des écosystèmes amphihalins, où toute la faune qui se développe au contact océan-continent s'alimente et a besoin de ce flux d'eau douce qui arrive. Donc même l'eau que l'on croit se perdre en mer est utilisée par quelqu'un. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que nous n'en prenions pas, c'est pas ça que je veux dire. Je dis simplement que quand l'homme arrive, s'installe et de plus en plus aménage et utilise, l'eau dont il a besoin, qu'il prend, il la prend à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est lui, c'est l'éléphant ou un autre, c'est un symbole. Ça peut être les microbes, ça peut être les plantes, ça peut être ce que vous voulez. Mais il ne faut pas croire, et maintenant le problème devient très important dans la mesure où nous sommes de plus en plus nombreux, donc nous avons de plus en plus besoin d'eau, comme on va le voir dans un instant, mais cette eau, elle n'existe pas libre et disponible. Il faut toujours être conscient qu'on va la prendre à un écosystème, à un animal, à un système écologique compliqué qui en a besoin pour disposer. Et donc, c'est toujours aux dépens de quelqu'un que nous prenons notre part. Et ça, c'est important, on en reparlera par la suite. Alors, répartition des précipitations sur Terre. Nous avons ici une image très parlante. Vous reconnaissez ce qu'on appelle la ceinture des déserts chauds. C'est la zone du Sahara pour ce qui nous concerne, mais qui se prolonge sur l'ensemble de la planète. Vous avez l'Arabie, vous avez l'Iran, vous avez les déserts de Taklamakan et de Gobi en Chine. On en revoit un petit peu de l'autre côté en Amérique du Nord avec l'Arizona, le Mexique. Mais cette ceinture désertique, elle existe aussi dans l'hémisphère sud. Elle est moins marquée. Elle existe ici en Australie, elle est même plus étendue que ça, il y a une fraction de l'Australie qui est coupée. Mais donc, on a, pour des raisons de circulation générale atmosphérique, deux zones sèches. Alors, on va le voir quand on parlera de démographie, mais l'humanité n'est pas très maligne. Autrement dit, 21% des habitants de la planète aujourd'hui sont allés se mettre, ou disons se sont débrouillés pour être, là où il n'y a seulement 2% des ressources en eau. Donc, si vous voulez, les problèmes de l'eau dont on parle, ils ont aussi un peu pour cause que, bon, on ne s'est pas mis l'eau, il y a de l'eau. Alors, il faut ensuite râler et se plaindre qu'on n'a pas d'eau, peut-être. Mais si vous voulez, il y a une certaine illogisme à l'occupation que la planète a fait, si on se place sur le seul critère de l'eau disponible, des terres disponibles. Moi, je suis né à Marseille, aux côtés de Marseille, dans une ferme. L'été, il n'y avait pas d'eau. Donc on ne se lavait pas, ou on allait chercher un seau d'eau pour, de temps en temps, avoir de quoi boire, etc. Est-ce que j'ai envie d'aller m'installer en Sibérie où il y a beaucoup d'eau ? La réponse est non. Donc on a choisi de peupler la planète pour diverses raisons à des endroits que l'on juge agréables et acceptables, mais effectivement, il y a des endroits de la planète, ils sont indiqués là, on en reparlera beaucoup, où il manque d'eau. Alors, je vais vite, parce que c'est des détails, la répartition du cycle de l'eau fait que la planète vit en fait à partir de ce qu'on pourrait appeler des châteaux d'eau. Les précipitations augmentent tous les 2000 mètres, elles doublent tous les 2000 mètres. Donc en France en particulier, nous avons les Alpes. Les Alpes, c'est fait que quoi qu'il arrive, ça c'est une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive, quel que soit l'effet des changements climatiques, nous aurons toujours, en tout cas dans le sud-est de la France, des quantités d'eau absolument considérables et nous ne manquerons jamais d'eau. C'est moins vrai sur le sud-ouest. Le sud-ouest, les Pyrénées ne sont pas assez hautes, les effets châteaux d'eau existent mais sont plus petits, il n'y a pas de glace pérenne sur les Pyrénées, si bien qu'il y aura des problèmes d'eau dans les Pyrénées, mais pas dans les Alpes. Bon, quand il y a des Alpes, etc., c'est connu. Bien, variabilité interannuelle. On a souvent tendance à parler de climat en disant, voilà, il pleut, allez, 6 ans, 11 mm par an à Paris. Ça, c'est la moyenne pour les années 1873-1993. Alors, en fait, c'est pas vrai, vous le savez bien, il y a des années plus humides, c'est-à-dire moins humides, et ce qu'on appelle un histogramme, sur 120 ans de précipitations historiques, eh bien, la gamme de précipitations, l'étoile, c'est la gamme 500-600 mm par an. Ça, c'est des années extrêmement sèches où on n'a que moins de 500, et puis là, où on a très très rarement des pluies à moins de 300. Et inversement, les années très pluvieuses, eh bien, on monte jusqu'à à peu près 1000. Donc voilà l'histogramme. Alors, par comparaison, vous avez ici l'histogramme de Montpellier. Montpellier, il pleut un peu plus, 722. Dès qu'on se rapproche de la zone désertique, l'écart type ou l'étalement de l'histogramme des précipitations est beaucoup, beaucoup plus important. Vous voyez, ça va de très, très, très faible à énorme. Et ça, c'est une caractéristique des pays secs. Non seulement il pleut en général moins, mais en plus, la variabilité est énorme. Les deux choses vont de pair. Alors, pour illustrer ça, une photo de Paris que vous avez probablement rarement vue, c'est le pont Marie. Été 43, été très sec. Il n'y avait pas une goutte d'eau dans la Seine, on pouvait presque la traverser à pied. La raison pour laquelle on ne la voit plus comme ça, même quand il pleut très peu, c'est qu'il y a des écluses. Or, du fait de la guerre, les écluses avaient été abîmées, si bien que le niveau de la Seine n'était pas maintenu, et on a cette vision catastrophique d'une Seine dans laquelle il ne coule presque rien. Alors ça, c'est la réalité. Alors maintenant, depuis environ une vingtaine d'années, on a construit en amont de Paris trois grands barrages qui permettent d'avoir un débit minimum raisonnable dans la Seine. Mais si on n'avait rien, si on se basait sur le climat naturel, on aurait des choses comme ça. Et puis, vous connaissez les crues de 1910 de Paris, je n'insiste pas. Alors, je voudrais parler un petit peu de la sécheresse au Sahel, parce que ceci est aussi lié, on parlera pas mal d'alimentation. Ici, je vais vous montrer dans un instant le débit du fleuve Niger sur 100 ans à Koulikoro. Alors, le débit du fleuve Niger, évidemment, reflète la quantité de pluie qui tombe dans la région. S'il pleut peu, on a des débits faibles, et si on a des débits élevés, c'est l'inverse. Et voilà ce que ça donne. Et ça, on peut considérer que c'est indépendamment de tout changement climatique dû au gaz à effet de serre dont on parlera dans un instant. Parce qu'en 1900, il y avait peut-être déjà un tout petit premier effet du réchauffement, mais enfin, il était vraiment un tout petit. Et vous voyez qu'il ne faut pas prendre ça pour des cycles. Ici, vous avez une vingtaine d'années où il pleuvait, je dis vraiment pas beaucoup. Ici, il y a eu une période d'une 10 ans où il a plu beaucoup, ensuite ça revient, etc., ça revient. Et vous avez ici ce qu'on appelle la sécheresse au Sahel, qui a commencé dans les années à peu près 70. Et on en parle encore, puisqu'on n'est pas encore revenu, on n'a pas encore remonté suffisamment pour être par ici. Mais il faut voir ça, la variabilité du climat à des échelles importante de plusieurs dizaines d'années, vous voyez, est une constante de la planète, et ça s'appelle les années de vache grasse, les années de vache maigre depuis la Bible, hein, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc le climat, ça varie tout le temps, indépendamment de changements climatiques. Et la sécheresse au Sahel, c'est un événement presque naturel, qui a bien sûr eu des conséquences que vous connaissez, puisqu'il y a énormément de troupeaux qui ont dû être abattus. Je voudrais, parce que je n'aurai pas le temps de parler, parce que je manque de temps, je le vois, attirer votre attention sur ces variations climatiques naturelles. Pour l'instant, je ne parle pas de changement climatique anthropique. Ici, vous avez une image d'une période de sécheresse très intense qui a sévi au XIXe siècle, 1876-1878, et puis qui s'est reproduit à la fin du siècle. Celle-là, c'est la plus grave. Et ce qui est important de voir, c'est que ces points rouges montrent là où, non pas où se sont produits, là où on a eu des données aujourd'hui qui permettent de dire qu'il y a eu des choses graves. Il y en a eu en Éthiopie, il y en a eu en Inde, énormément, et il y en a eu en Chine, et il y en a eu au Brésil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu ailleurs, ça veut dire que là, on a des enregistrements, des données qui nous montrent ce qui s'est passé, et ça a été une sécheresse absolument catastrophique. Il y a, je crois que je l'ai ici, il y a environ 30 à 60 millions de morts pour chacun de ces épisodes, alors que la population de l'humanité était de l'ordre de 1,5 milliard. Donc vous voyez que c'est des épisodes absolument catastrophiques, qui ont été étudiés par un économiste prix Nobel d'économie, il s'appelle Amartya Sen, et qui a montré que, en fait, dans ces périodes-là, c'est un peu un scandale, c'est un épisode dans lequel 30 millions d'Indiens sont morts et que le vice-roi des Indes continuait à envoyer des bateaux de grains à Londres. Donc il y a eu, si vous voulez, des choses absolument insensées qui sont produites. Et alors, bon, ça s'est produit, Amartya Sen en reparle, environ en 1975-1970, il y a eu une sécheresse en Afrique, en Éthiopie, et vous avez des gens qui sont morts de faim parce que personne ne s'en est occupé, on les a laissés nourrir parce qu'il y avait eu des sécheresses graves. Ceci nous pend au nez. On peut montrer que ces épisodes simultanés de sécheresse sur l'ensemble des continents semblent liés au phénomène El Niño. Le phénomène El Niño est un phénomène qui lie l'océan et l'atmosphère, qui est surtout concentré sur le Pacifique. C'est un phénomène qui a pris naissance, enfin, qu'on a observé pour la première fois en Amérique du Sud, et qui est lié à des variations de température et de vent sur le Pacifique, et qui a des conséquences extrêmement intenses sur les précipitations de mousson. Vous voyez, ça se produit rarement. J'ai fait quelques recherches à partir d'enregistrements historiques faits par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui a travaillé sur les données historiques en Amérique du Sud. Et ils ont retrouvé des fréquences et des intensités des événements El Niño depuis 1500. Donc on a à peu près 500 ans de récurrence de ces événements El Niño. Et on montre, enfin au moins sur cette statistique-là, qu'ils s'en produisent de très graves deux fois par siècle. Donc au XIXe siècle, c'est cela. Au XXe siècle, c'est deux fois en moyenne. Au XXe siècle, il y en a eu un pendant la guerre de 40, qui est passé inaperçu, comme vous pouvez vous en douter. Et il y en a eu un en 78, qui est... On n'est pas allé jusqu'à la famine parce que les greniers étaient pleins et la Chine et l'Indonésie, qui étaient en complet déficit de nourriture, ont pu, sur les marchés internationaux, s'alimenter en grain. Où je vous dis que ça nous pend au nez, c'est que ces phénomènes climatiques liés à El Niño peuvent se reproduire, éventuellement avec des fréquences plus importantes parce que les changements climatiques pourraient influencer El Niño, on n'en sait rien. Et actuellement, les stocks de nourriture mondiale sont au plus bas. On avait jusqu'à une dizaine d'années, environ 7 à 8 mois de nourriture stockée dans des silos. On est à 2 mois. On est à 2 mois aujourd'hui. Et personne n'y croit. Personne n'y croit. La FAO dit, oui, mais s'il ne pleut pas au Brésil, il va pleuvoir en Inde. Et s'il ne pleut pas en Inde, il pleuvra en Chine. Non. Quelques fois par siècle, on a ces phénomènes généralisés de sécheresse qui peuvent conduire à des catastrophes. Je pense que nous allons avoir des lendemains difficiles avec des phénomènes auxquels nous ne nous attendons absolument pas. C'est un des points que nous disons dans ce rapport qui a été remis au gouvernement en mars. Voilà. Alors, maintenant, réchauffement climatique, je vais vite. Je ne souhaite pas rentrer dans le débat quelle est la cause du changement climatique. J'ai une opinion extrêmement ferme et arrêtée sur la cause du changement climatique, c'est les gaz à effet de serre. Si vous n'êtes pas d'accord, on pourra en discuter, mais je ne vais pas plus loin. Ce schéma qui a été proposé dans un précédent rapport de l'Académie qui s'appelait Les eaux continentales me paraît assez illustratif. Voilà, vous avez à gauche le pôle Nord. Ici l'équateur, ici le pôle sud, et nous regardons pour l'instant la courbe épaisse, en trait noir. L'échelle ici, c'est le nombre de millimètres par jour de pluie pour les mois de décembre, janvier, février. Mais on pourrait faire la même courbe pour tous les mois de l'année si vous le souhaitez. Donc vous reconnaissez sur ce diagramme, alors ça c'est moyenné sur les années et c'est moyenné sur toutes les longitudes. Donc ça fait le tour de la Terre et on moyenne tout ça. Donc c'est très, très global. Alors vous retrouvez ici ce que je vous ai déjà décrit, c'est-à-dire la ceinture désertique. Nous sommes dans la zone tempérée. La quantité de précipitation est de l'ordre de 600-700 mm, c'est ce qu'on a vu à Paris, un peu plus en montagne. Ici, on arrive dans la ceinture désertique où il pleut très, très peu. Ici, on a la zone tropicale équatoriale où il pleut beaucoup, d'où le fleuve Okavango qui coule vers les pays secs avec, en amenant beaucoup d'eau. Ici, la ceinture désertique de l'hémisphère sud qui est beaucoup plus moins marquée. Et puis, aux deux extrémités, ce qu'on appelle les déserts froids. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans les zones arctiques ou antarctiques, il pleut très peu. En fait, l'eau est conservée sous forme de glace, mais c'est parce qu'elle ne fond pas. Mais en fait, il en arrive extrêmement peu. En gros, il va faire plus chaud. Augmentation de la température, donc un cycle de l'eau atmosphérique plus intense. Il va s'évaporer plus d'eau sur les océans, se condenser plus d'eau dans les nuages et retomber plus d'eau en pluie. Dans la zone équatoriale et tropicale, eh bien, il va y avoir des précipitations accrues. Mais ce qui semble, c'est pas exactement comme ça. Enfin, disons, ce que les climatologues annoncent, c'est que les ceintures désertiques, nord et sud, vont se déplacer un petit peu. Donc ça veut dire que vous voyez qu'ici, on pleuvra pas mal moins qu'actuellement, et qu'en Europe du Nord, par exemple, il pleuvra pas mal plus. Donc le point de croisement des deux courbes, c'est-à-dire celui où il pleuvra autant en 2100 qu'aujourd'hui, c'est Lyon, pour la latitude de la France, la longitude de la France. Oui, mais c'est Lyon plus ou moins 1000 km. Ça veut dire qu'on n'en sait rien. Ou bien toute la France bénéficiera d'un climat plus humide, ou bien toute la France bénéficiera d'un climat plus sec. Les climatologues ne peuvent pas aujourd'hui, avec les outils qu'ils ont, répondre à cette question. Et ce qui est quand même un petit peu décevant, c'est qu'ils nous disent qu'il faut 15 ans de calculs et de travaux considérables pour arriver à ce qu'on arrive à répondre à cette question. Donc la prévision des changements climatiques en ce qui concerne les précipitations, ce n'est pas demain que nous aurons la réponse à cette question très importante. Alors si vous êtes en Europe du Nord, non, vous êtes sûr de votre coup. Il va faire plus humide. Si vous êtes dans la zone sud de la Méditerranée, là, vous êtes sûr de votre coup. Il va faire plus sec. Mais nous nous trouvons, nous, Français, à peu près à la zone d'incertitude maximum. Pourquoi c'est-il incertain? Vous avez ici ces petites courbes en couleur et en pointillés. C'est une demande faite aux 15 meilleurs modèles du groupe international d'études du climat, le GIEC, qui se réunit, qui fait, vous le savez, des rapports tous les 4 ans. Le dernier produit est sorti en 2009, de mémoire. Et ils nous disent un petit peu, voilà comment va aller ce climat. Alors, on demande à ces modèles de nous montrer qu'ils sont sérieux, qu'ils sont bons. Donc, qu'est-ce qu'on leur demande? C'est de nous reproduire les observations actuelles. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas une prédiction du climat de demain. C'est un essai de faire dire aux modèles, avec tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils font, s'ils sont capables de nous expliquer le climat actuel. La réponse, vous voyez, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas bon. Quand j'étais professeur d'hydrologie à Paris 6, un étudiant qui arrivait avec un modèle aussi mauvais que ça, je dirais, mon ami, tu vas repasser. Tu n'auras pas ton diplôme cette année. On en est là. Les modèles climatiques sont beaucoup plus précis en température, beaucoup plus imprécis, beaucoup trop imprécis en climat. Alors, bon, voilà deux images qui montrent ce que je vous ai montré de façon globale. Vous voyez, il pleut plus dans la zone tropicale, en Afrique en particulier, et il pleut plus dans le nord de la planète, un peu moins dans le sud, mais ça fait rien. Alors, il ne faut pas non plus rêver beaucoup. Ici, vous vous dites, oh là là, le Sahara va reverdir. Voilà, j'ai plus 50% de précipitations au Sahara. Mais 50% de pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. Comme il ne pleut pas au Sahara, ces cartes-là ne nous disent pas qu'on va reverdir le Sahara. Il fera meilleur à vivre au Burkina Faso, il fera meilleur au Mali, et il fera plus mauvais à vivre en Europe du Sud et en Afrique du Nord, bien évidemment. Alors, pareil pour les mois de janvier, février, mars, je passe. L'eau du sol, fusion des glaces, des glaciers, risque d'incendie. J'avais fait un exposé un peu pareil. Vous m'en excusez, ce n'est pas la première fois que je fais un exposé comme ça, à la réunion des ministres de l'Environnement de l'Europe en 2007 à Lisbonne. Et je leur ai dit, voilà, changement climatique. Le ministre de l'Environnement grec pleurait, parce qu'il avait toute la forêt grecque, vous vous en souvenez, qui brûlait cette année-là. Et ça, ça veut dire ça. Ça veut dire que cette raréfaction de l'eau dans les zones méditerranéennes va conduire probablement à une modification, sinon une disparition de la forêt méditerranéenne. Je parle sur les extrêmes, on n'aura pas le temps d'en parler. Conséquences pour l'Europe, je vais vite, enfin vous, si je vous montre quand même, ça revient à ce que j'ai dit, hein. Il pleut plus dans l'Europe du Nord, il pleut moins dans l'Europe du Sud, et puis la France se trouve dans la zone d'incertitude. Une chose qui est quand même intéressante, c'est un travail qui a été fait tout à fait récemment par des collaborateurs de mon laboratoire. On a parlé du Pyrensen, c'est eux qui ont fait ça. Et qui est inquiétante pour nous, Parisiens. Alors, je m'explique un peu sur ce schéma. Vous avez ici les débits de la Seine à Pose. Pose, c'est l'exutoire du bassin de la Seine avant d'arriver dans la zone estuarienne. Et vous avez ici les mois de janvier à décembre. La courbe rouge, c'est les moyennes des débits de la Seine pendant toute l'année. Vous voyez qu'on a effectivement des essiages qui sont très sévères en août-septembre. Et puis l'enveloppe, les courbes en pointillé ou la zone hachurée, ça correspond à la variabilité d'une année sur l'autre. C'est comme ça que ça fluctue. Voilà ce que prédisent, c'est des modélisations, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, sachant ce que je vous ai dit sur la qualité des modèles de prévision du climat. Mais quand même, c'est inquiétant. En ce sens que la courbe bleue que vous voyez ici, c'est la moyenne qui était ici. Voilà ce que nous disent les modélisations climatiques et hydrologiques associées pour le débit de la Seine en octobre, novembre, décembre de l'année 2050 ou des années autour. Et c'est encore pire en 2100. Nous risquons d'avoir d'énormes problèmes d'eau à Paris et des débits de Seine aussi faibles que je vous ai montré avec l'image de la Seine dans un traitement contre la bête à insectes, non seulement en août-septembre, mais se prolongeant jusqu'à octobre, novembre ou décembre. Donc nous aurons probablement, si ceci se confirme, une nécessité, soit à économiser l'eau, soit surtout à augmenter très fortement le stockage d'eau dans les barrages en amont de Paris pour pouvoir assumer nos besoins vitaux. Alors, je voulais vous donner un exemple que je trouve très instructif sur le bilan en eau de la Tunisie. Alors, pourquoi la Tunisie ? D'abord, c'est un pays que j'aime beaucoup, c'est un pays sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, et sur lequel, d'abord, c'est un pays sec, donc il y a peu d'eau. Donc les Tunisiens ont pris grand soin à essayer d'étudier très en détail combien d'eau ils ont et combien d'eau ils ont besoin. Donc on peut faire une comparaison entre ce qu'ils ont et ce dont ils ont besoin. Alors je vais faire ça rapidement. Vous avez la surface de la Tunisie, environ 5 millions d'hectares qui sont cultivables et un demi-million qui est cultivé. Et aujourd'hui, la Tunisie est à 10 millions d'habitants. Alors il pleut en moyenne 220 mm en Tunisie. Cette moyenne ne représente rien. C'est la moyenne entre quelque chose qui est de zéro dans le sud tunisien qui est en plein désert et qui est quelque chose qui est de l'ordre de 500-600 au nord. Donc en Tunisie du Nord, il pleut un peu moins qu'à Paris, mais enfin il pleut quand même raisonnablement, on peut faire de la culture pluviale et c'est des gradients extrêmement de dessèchement vers le sud. Alors si on fait le produit de la surface du pays par la lame d'eau, on a le total en kilomètres cubes d'eau qui tombe par an par Tunisie. L'évapotranspirée, c'est ce que j'ai appelé l'eau verte. C'est-à-dire celle qui repart à l'atmosphère après avoir été stockée dans le sol et servant à la végétation naturelle ou à l'agriculture dite pluviale. Et puis, l'eau bleue, c'est celle qui est en dessous, c'est celle qui s'écoule. Ruissellement total 2,7, ruissellement récupérable, disent les Tunisiens, 2,1. Alors, ils ont produit un programme qui s'appelle les 1000 barrages, dans lequel il faut, disent-ils, arrêter tout écoulement en mer, ce qui est, à mon avis, une erreur. Enfin bon, ils essaient de le faire, pour pouvoir garder toute l'eau qu'ils ont, et les eaux souterraines sont exploitables. Alors maintenant, ça c'est ce qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors nous allons ensemble remplir ce tableau et nous allons voir, alors on va le remplir pour 2004 et pour 2025, et nous allons voir que le chiffre dominant, c'est la demande alimentaire comptée en équivalent en eau. Alors pour remplir ceci, nous avons besoin d'une petite table qui est la contenue en eau des aliments. Alors regardons la première colonne qui sont les végétaux et je prends par exemple le blé. 1000 litres d'eau sont nécessaires pour produire 1 kg de blé. Ce n'est pas la teneur en eau des grains que vous achetez sur le marché, non. Supposons que nous fassions l'expérience ici, nous plantons 1 mètre carré de blé pendant un an, on va le voir pousser, et tous les jours, il faut l'arroser un peu. Donc on va compter combien de seaux d'eau on a mis pour faire pousser ce blé, on va compter combien d'épis et combien de grains de blé, on va peser tout ça, et on va faire l'apport des deux, et on dira, on trouvera à peu près 1000 litres d'eau pour produire 1 kg de blé. Alors, vous avez des plantes qui sont moins efficaces, le riz consomme plus d'eau, le maïs en consomme un peu moins, les pommes de terre, c'est très bien les pommes de terre, 1100 litres au lieu de 2000. Donc, chaque fois que vous mangez une pomme de terre, vous économisez de l'eau par rapport à manger l'équivalent en pain. Alors là, ça va, mais ça va beaucoup moins bien ici. Ça, c'est les produits animaux. Et vous avez ceci, que produire 1 kg de bœuf demande 13 000 litres d'eau. Évidemment, c'est pas que le bœuf boit 13 000 litres d'eau, le pauvre animal. Il en a beaucoup moins. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il consomme du grain qu'on va lui donner. En particulier, tous les bœufs d'embouche sont nourris avec du maïs. Donc on commence par fabriquer du maïs au taux de 1 à 700 litres par kilo. On donne 1 kg de maïs à un bœuf. Il ne va pas fabriquer avec 1 kg de maïs 1 kg de viande. Il va en faire beaucoup moins à cause du rendement trophique de l'alimentation. Alors je suis gentil. Si j'étais méchant, je vous mettrais la quantité d'eau contenue dans un kilo de steak de tigre. Le tigre, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par s'alimenter en bœuf. Donc il va prendre un kilo de bœuf et il va en faire 10 grammes de tigre. Donc il faudrait 10 camions-citernes d'eau pour faire un steak de tigre. Vous voyez l'accumulation ou l'augmentation de la consommation d'eau par le fait que, dès qu'on a dans les produits animaux, ce ne sont pas des gens, des animaux. Il faut quand même qu'ils commencent par consommer la production primaire qui est faite par les végétaux. Alors, le bœuf, c'est l'ennemi public numéro un, le bœuf. Hein. La volaille, une parenthèse, dans le rapport qui était là, on avait mis ça, on avait mis le bœuf, ennemi public numéro un. Il se trouve que pas mal de mes confrères à l'Académie viennent, disons, de la France centrale, du Charolais, de ces gens-là. Ils n'ont pas aimé du tout. Donc la phrase a été, comment dirais-je, tempérée. Mais c'est vrai, les proportions sont différentes. Les volailles, c'est moins mal, l'œuf, etc., etc. Alors maintenant, ayant cette table, sachant le menu moyen d'un Tunisien, il mange du couscous, il mange un peu de mouton, il mange ceci, il mange cela, eh bien, je peux calculer et remplir ma colonne. Alors voilà ce que ça donne. La demande équivalente en eau en 2004 d'un Tunisien moyen, c'est 1450 mètres cubes d'eau par an pour fabriquer la nourriture qu'il consomme. 1450. Comparé à ce chiffre, la demande en eau directe, c'est-à-dire l'eau de boisson, l'eau de lavage, l'eau industrielle, même elle est comprise là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'industries consommatrices d'eau en Tunisie, mais si vous voulez, le petit artisanat, tout ça, c'est 55 mètres cubes. Donc vous voyez que le problème de l'eau, ce n'est pas le problème de l'eau potable, ce n'est pas le problème de l'eau industrielle, ce n'est pas le problème de l'eau touristique, c'est le problème de la nourriture. 96% de l'eau d'un Tunisien sert à le nourrir. Alors c'est un peu moins dans d'autres pays, mais c'est toujours supérieur à 90%. Donc vous voyez, le problème de l'eau est indissociable du problème de la nourriture. Et si on change le mode alimentaire, c'est ce que nous allons faire comme nous passons à 2025, eh bien, nous allons augmenter la consommation d'eau. Alors vous voyez, je multiplie le nombre d'eau pour manger, le nombre d'eau pour le reste, par le nombre d'habitants, et j'ai la quantité d'eau dont on a besoin, 15 km cubes. Et là, c'est les chiffres qu'on a en eau verte et en eau bleue. Résultat des courses, il manque à peu près 5 km cubes, c'est-à-dire un tiers de l'eau. Donc le Tunisien d'aujourd'hui vit un tiers au-delà de ses moyens en matière d'eau. Il vit très bien, mais il vit comme ça. Comment il fait? Eh bien, il importe ce qu'on appelle de l'eau virtuelle, c'est-à-dire en fait des céréales. Il importe du blé pour la nourriture humaine et de l'orge pour la nourriture animale. Donc vous voyez que le problème de l'eau, on peut très bien vivre au-delà de ses propres ressources si il existe sur le marché mondial, de la nourriture disponible que l'on peut acheter. Je me suis allé balader il y a 2 ans à Djibouti. À Djibouti, il ne pleut pas. On importe tout. On importe tout. Il n'y a pratiquement rien qui pousse. Et on vit très bien à Djibouti. Enfin, il y a des gens très malheureux, mais disons que Djibouti est une activité industrielle liée au port qui exporte tout, c'est le port de toute l'Éthiopie. Et toute l'importation éthiopienne ou l'exportation éthiopienne passe Djibouti qui vit assez bien. Vous allez en Arabie Saoudite, il y a encore moins d'eau. Mais ce n'est pas là où on crève de faim. C'est là où on a du foie gras à tous les repas, enfin, sauf qu'il y a du porc dedans. Donc voilà, le problème de l'eau. Alors pour la Tunisie, si je passe en 2025, c'est calcul fait par les Tunisiens, c'est pas moi qui les ai faits, ils seront 12 millions, donc augmentation démographique, et ils prévoient qu'ils mangeront comme nous. 1700 mètres cubes par an, c'est la quantité que nous, Français ou Européens, consommons en eau par la nourriture que nous consommons. Parce que nous avons un régime qui est plus riche que le régime tunisien. Les Tunisiens disent en 2025, on sera comme vous. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils en arrivent? Ils ont à moitié, ils seront probablement à 45-50% de déficit en eau, compte tenu aussi du fait que, probablement, comme je l'ai dit, il y aura moins d'eau disponible par la pluie en Tunisie. Donc voilà. Alors, je vais retourner sur la carte mondiale pour vous montrer les zones chroniques de manque d'eau en 2000. C'est un institut qui s'appelle International Water Management Institute, qui est ici à Colombo, hein, au Sri Lanka, qui a publié ces cartes, mais c'est très bien fait. Et il y a 3 couleurs. Vous voyez la couleur bleue, c'est les problèmes où, grosso modo, il n'y a pas de problème d'eau. Il y en a quand même beaucoup. Vous avez la zone sèche que j'ai déjà montrée 36 fois, dans laquelle, bon, on sait qu'il manque d'eau. Et puis vous avez ici ces couleurs-là, ce sont des zones proches de la zone sèche, dans lesquelles vous avez actuellement, relativement encore un peu d'eau, mais vous n'en aurez plus dans, disons, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et puis, vous avez cette zone-là qu'on retrouve ici, cette couleur-là, et qu'on retrouve là. Ça, vous pouvez le constater, c'est la zone tropicale équatoriale, où il pleut beaucoup. Et pourtant, selon ces relevés, on manque d'eau. Et on manque d'eau pour quelle raison? Parce que les gens ne mangent pas à leur faim. Pourquoi? Parce que l'équipement nécessaire pour utiliser l'eau disponible, pour faire des zones irriguées, pour faire pousser de la nourriture et faire que tout le monde mange à sa faim, n'ont pas été faits. Donc c'est ce qu'on appelle un déficit économique en eau. Et vous voyez qu'aujourd'hui, toute la zone sèche sur laquelle on nous rabat les oreilles en disant « Oh là là, il n'y a pas d'eau, zone sèche, ça va s'assécher, etc. » Oui, mais on a vu que la zone sèche peut s'alimenter et vivre bien, c'est le cas des Tunisiens, à 30 ou 50% de déficit en eau, dans la mesure où ils ont des moyens financiers pour acheter sur les marchés internationaux de la nourriture, il faut donc une activité économique, industrielle ou autre, touristique, et que sur le plan mondial, il existe des productions agricoles qui permettent à satisfaire aux besoins de la planète. Donc le problème de l'eau, par ce petit exposé sur la Tunisie, je crois qu'il est bien posé en ce sens qu'on voit d'abord qu'on ne peut pas le traiter à l'échelle d'un pays, un pays est capable de subvenir à ses besoins en eau par des importations, et que ces importations, elles sont faisables si à l'échelle du globe, la capacité productrice en nourriture permet de combler les déficits en eau de tel ou tel pays. Et quand on... Alors évidemment, ça choque beaucoup certains pays qui disent « Moi, je veux mon autonomie alimentaire. Je ne veux pas dépendre du bon vouloir de tel pays exportateur pour ma subsistance. » C'est évidemment une préoccupation extrêmement importante. Mais elle est intenable. Toute la zone sèche ne la tient déjà pas depuis très longtemps. Et nous allons voir que l'Asie entière sera dans la situation de la Tunisie en 2050. L'Asie entière aura excédé ses capacités de production agricole par ses besoins de consommation en eau. En gros, si vous voulez, la consommation en eau de la planète en 2000, regardons que ce chiffre-là, elle est d'ordre de 2000 km3 par an. Or, vous vous rappelez que sur le premier transparent sur le bilan du cycle de l'eau, il s'écoule à peu près 40 000 km3 par an. Donc vous voyez, au niveau de la planète, il n'y a pas de vrai problème d'eau. Donc rappelez-vous bien ça, le problème de l'eau, c'est un problème de répartition géographique. Globalement, il y en a beaucoup, on n'en manquera pas. Mais évidemment, on ne peut pas la déplacer, ou très difficilement, ça coûte très cher. Donc on se débrouille en déplaçant ce qu'on a appelé de l'eau virtuelle, c'est-à-dire de la nourriture produite là où on peut la produire. Et on passe à 2050. Donc 2050, nous serons, en 2011, nous serons 7 milliards. Je ne sais pas quel est le mois où nous allons passer de 6,99 à 7, mais c'est quelque part cette année. D'après les démographes, et j'ai ici une courbe démographique qui vient de ce rapport, qui a été fait par Henri Léridon, vous avez les prévisions des Nations Unies sur la démographie de la planète jusqu'à 2050. Au-delà de 2050, on a beaucoup de mal aujourd'hui à être assez, de pouvoir s'avancer. Mais disons que les prévisions moyennes, selon les démographes, sont assez précises et peu variables. Donc il n'y a pas beaucoup d'incertitudes. Nous serons 9 milliards en 2050, un peu plus. Et pour arriver à descendre en dessous, ça c'est une précision extrêmement basse, 8 milliards, il faudrait pratiquement que du jour au lendemain, la totalité des femmes de la planète est environ 2 enfants, alors que certains pays sont encore à 5. Il y a 12 pays du monde, tous en Afrique subsaharienne, dans lesquels il y a en moyenne 5 enfants par femme. Dans le reste du monde, c'est en train de baisser, et nous, en Europe, on est plutôt en dessous. Hein, en particulier, l'Europe du Nord est en dessous de 2. Mais bon, c'est totalement improbable. L'incertitude sur la démographie est très faible, et même les pires calamités climatiques ou maladies, le sida par exemple, le sida, c'est rien du tout. C'est une catastrophe, le sida. Mais il arrive sur Terre 70 millions de plus d'êtres vivants par an, il meurt 300 000 personnes par le sida. Ce n'est pas, les grandes maladies ne sont pas quelque chose qui va perturber cette croissance démographique. Alors, une chose qui est quand même catastrophique, ça, c'est qu'en 2003, sur les 6 ou 7 milliards que nous étions, il y en avait environ 856 millions qui étaient sous-alimentés. Pas bien. Mais ce chiffre diminuait d'année en année. Autrement dit, la croissance de la production agricole était supérieure à la croissance démographique. On a changé en 2008 avec la crise alimentaire que vous avez connue, le prix des céréales qui avait presque doublé. Et maintenant, on est passé d'un seul coup à environ 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Donc on est parti sur une mauvaise trajectoire. Ça a un tout petit peu diminué, probablement en 2010, on n'en sait pas encore tout à fait. Mais disons qu'on est beaucoup moins bien en matière de nourriture de la planète qu'il y a 4-5 ans. Alors nous sommes nourris comment? Par 265 millions d'hectares irrigués et 1,3 milliard d'hectares d'agriculture pluviale, c'est-à-dire celle du cycle de l'eau verte, c'est-à-dire l'eau de pluie, qu'il n'y en a pas besoin de rajouter de l'eau, ça suffit pour faire pousser tout le monde. Alors, je vous ai montré ça, la croissance, c'est la même courbe, mais cette fois-ci en continent. Vous voyez, l'Asie, c'est plus de la moitié de la planète, et ça le sera d'autant plus que nous avançons dans le temps. Mon inquiétude, elle est là, elle est en Afrique. L'Afrique est à peu près à 1 milliard aujourd'hui. Suivant ces prédictions, vous voyez, l'Afrique n'a pas commencé ce qu'on appelle la transition démographique. L'Afrique subsaharienne est presque encore en train de monter aussi vite qu'avant. Donc on va arriver en 2 milliards selon cette courbe en 2050. Et il y a eu en février un article du Monde retraçant des prédictions des Nations Unies qui disait que si on prolonge la croissance démographique africaine en 2100, il y aura 8 milliards d'Africains. Comment on va faire? Je ne sais pas. Bon, alors, la façon dont on va subvenir aux besoins en eau et donc aux besoins en nourriture, puisqu'on a vu que 90% de l'eau, c'est pour se nourrir, c'est fonction du même tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est en fonction de ce que nous mangeons. Or, qu'est-ce qui se passe au point de vue mondial? Il se passe que l'Asie, en particulier les Chinois et les Indiens, qui étaient végétariens, est en train de devenir carnivore. Or, vous avez vu l'augmentation de la demande en eau si on mange un kilo de steak par rapport à un kilo de riz. C'est énorme, on double ou on décuple. Et c'est ce qui se passe, les Chinois sont riches, donc ils achètent de la viande, ils l'achètent en Amérique du Sud par exemple, où ils produisent plus de poulet, etc. Donc la consommation en eau est en train de monter à démographie qui serait constante parce que nous mangeons différemment. Et d'ailleurs, c'est une catastrophe aussi pour la santé, puisque dans le pays méditerranéen, on pouvait se glorifier dans la zone méditerranéenne d'avoir très peu de maladies cardiovasculaires à cause des régimes particuliers de consommation de nourriture de ces pays-là. Ça a complètement changé en 20 ans, et maintenant, c'est un boom des maladies cardiovasculaires parce qu'on mange très mal. On ne mange pas ce qu'on mangeait avant et on s'est mis à manger trop de viande, l'obésité, tous ces problèmes-là. Bon. 1,3 milliard aujourd'hui de personnes en surpoids. Si on continue sur notre trajectoire, 3,3 milliards, c'est-à-dire un tiers de la planète à peu près, en 2030, plus du tiers, qui serait en surpoids, 80% dans les PED. Il ne faut pas croire que le problème de l'obésité, c'est un problème uniquement de pays riches comme les États-Unis d'abord, l'Europe maintenant. C'est un problème qui concerne aussi les pays en voie de développement, et c'est un autre pendant de la nourriture mondiale. Il faut non seulement nourrir tout le monde, mais il faudrait essayer d'entraîner la population à manger des choses qui soient compatibles avec une santé correcte. Hein, ce n'est pas ce qu'on fait. Alors maintenant, ceci, c'est des travaux que nous citons dans le rapport qui ont été faits par, en particulier, Agrimonde, c'est-à-dire un rapport de l'INRA et du CIRAD qui est paru il y a un an ou deux ans. Et on tient compte ici de la quantité de nourriture produite en 2000, et on dit combien on va avoir besoin en 2050. Alors ça tient compte de quoi? De combien de personnes il y aura, donc l'augmentation de la population, de l'âge de la population, des enfants ont besoin de plus de nourriture que des gens âgés, et aussi des habitudes alimentaires, ce que je viens de dire. Est-ce qu'ils mangent du tigre ou ils ne mangent pas du tigre? Donc tout calcul fait, toute hypothèse fait, tout ça était évidemment très sujet à question. Il faut doubler à peu près la quantité de nourriture par rapport à l'actuel pour nourrir l'Asie, à peu près autant pour l'Amérique latine. Il faut arriver presque à multiplier par 3 pour l'Afrique subsaharienne, parce que la croissance démographique est plus forte, et parce que c'est là que se trouve l'essentiel des gens mal nourris aujourd'hui. Là, on fait un scénario qui dirait qu'on va nourrir tout le monde à peu près correctement, ce qui est même le minimum. Donc, en moyenne, sur la planète, il faudrait un petit peu moins que doubler la quantité de nourriture à faire. Vous voyez que le problème n'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 3 choses. Réduire les pertes et les gaspillages, ça c'est un point très important, c'est une chose qu'il faut savoir. Nous, Européens et même Américains, nous gaspillons 30% de la nourriture que nous achetons. Ça c'est un scandale. Si vous fouillez les poubelles de vous et moi, vous trouvez des paquets qui ont été achetés, qui n'ont même pas été ouverts et qui sont jetés parce que la table de DAP, ceci, cela. Et le nombre de choses qu'on laisse pourrir dans les frigidaires et qu'on jette, c'est un scandale. Quand on sait qu'un milliard, une personne sur 7 ne mange pas sa faim, bon, donc il faut réduire ça. Il faut augmenter la productivité des rendements agricoles, il faut augmenter les surfaces irriguées, il faut augmenter les rayures pluviales. On peut espérer augmenter la productivité par divers moyens dont on pourra parler. En gros, on peut, d'après les spécialistes, augmenter de 30% la production agricole à surface cultivée constante, hein, avec plus d'engrais. En fait, il faut pratiquement augmenter la fertilisation, en particulier dans les pays en développement où elle n'est pas faite, en particulier en Afrique. Mais 30%, ce n'est pas un facteur 2, donc ça ne suffira pas. Le reste, c'est quoi? C'est l'agriculture irriguée ou l'agriculture pluviale. L'agriculture irriguée, voilà la courbe du nombre de constructions de barrages par an depuis 1900 jusqu'à 2000. Voilà. Vous voyez, le pic des barrages, il a été construit dans les années 70. On était jusqu'à 800 barrages par an. On a cessé de construire des barrages. On a complètement cessé. Donc on n'est pas parti pour nourrir la planète, on a abandonné, à moins qu'on change de vie d'épaule, hein, on a abandonné la construction des barrages. Donc ce n'est pas avec de l'agriculture irriguée, à moins que l'on change complètement notre fusil d'épaule, qu'on va nourrir la planète. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'agriculture pluviale. L'agriculture pluviale, c'est-à-dire qu'on prend des terres où il pleut suffisamment, on enlève ce qui s'y fait aujourd'hui, parce que s'il pleut, il y a un écosystème. Cet écosystème, ça va être une forêt, une savane, quelque chose. On rase tout ça et on met de la culture pluviale non irriguée. Alors, ça c'est une bonne idée. Encore faut-il avoir de la terre cultivable. Alors voilà un document de la FAO qui donne, continent par continent, la quantité de terre cultivée aujourd'hui, la quantité cultivable d'après les inventaires de la FAO et le rapport des deux. Vous voyez que pour la planète, on est environ à 40% de terres cultivées, donc on a encore une grosse réserve, mais des continents comme l'Asie n'ont plus que 75 ou même moins, et l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, toute cette zone sèche, ils sont à 90% de l'utilisation des sols. Donc il n'y a plus de réserve en sol irrigué, en sol, disons, cultivable. En revanche, l'Afrique subsaharienne a des sols cultivables et l'Amérique latine a des sols cultivables. L'OCDE et la Russie ont à peu près 50% de terres cultivables qui sont cultivées. Donc avec ça, on est capable de construire des scénarios. Je passe et je vous en montre un seul qui, par définition, va trouver une solution pour nourrir tout le monde en 2050. On fait des scénarios en disant pas tout le monde va mourir de faim. On essaie de trouver une solution. Alors la solution qui est imaginée ici, c'est de dire l'Asie est déficitaire, c'est ce que je vous ai dit, il est dit, se trouvera, l'Asie, le continent entier, plus de la moitié de l'humanité, se trouvera dans les mêmes situations que la Tunisie l'est aujourd'hui, elle ne sera pas capable de produire sur son sol la nourriture dont elle a besoin. Vous voyez les conséquences politiques que ceci peut avoir. Donc on a 660 millions de tonnes de déficit à combler. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, dans ce scénario, on dit que c'est l'Amérique latine qui va les poursuivre, et le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, qui déjà aujourd'hui n'y arrivera pas, n'y arrive pas demain, et donc on va faire produire ceux qui peuvent un peu, c'est-à-dire l'OCDE et la Russie. Donc on a un scénario qui boucle, c'est-à-dire qu'il y aura assez à manger pour tout le monde. Mais les conséquences, c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle, voilà, c'est des chiffres, on pourrait rentrer dans le détail, ceci confirme ce que je vous raconte. Vous avez vu dans la presse que les pays d'Asie en particulier, qui ont fait le même calcul que ceux que je vous présente, eh bien, ils se sont dit, moi je vais mettre la main sur des terres cultivables en dehors de chez moi. Donc vous avez ce phénomène d'achat massif de terres arables dans les pays où il y en a encore, c'est-à-dire essentiellement en Amérique du Sud et en Afrique, par les pays du Golfe, par le Japon, par la Corée, etc., parce qu'eux se rendent compte qu'ils ne seront pas capables de se nourrir. Comme ils ne veulent pas dépendre du bon vouloir d'un commerce international, ils se disent, mettons la main sur les terres que nous pouvons acheter. C'est ce qui se passe, avec des conséquences politiques que vous pouvez imaginer si ça ne se passe pas. Alors, je ne parle pas de la coproduction alimentaire et énergétique, c'est un problème dont on pourrait parler. Disons que si on augmente encore les besoins agricoles en faisant faire des biocarburants, ça va être au détriment d'autres choses. Donc ou bien on mange, ou bien on conduit en voiture, mais on ne peut pas faire les deux. Et croire qu'on aura assez de terres pour faire les deux, c'est une erreur, hein. C'est vraiment concurrent. Bon, il faut à peu près défricher de l'ordre de 0,3 à 1 milliard d'hectares suivant les scénarios. Je m'arrête, hein, j'arrive au bout. Et on peut nourrir tout le monde, donc c'est une bonne nouvelle. Le problème de l'eau n'est pas aussi grave que ce que l'on dit. Il faut être conscient qu'on ne peut plus être autosuffisant dans les pays secs, mais la planète, globalement, a de quoi nourrir 9 milliards d'habitants. Donc le message n'est pas mauvais. Bon, on pourra parler des conséquences économiques, mais bon, vous avez vu que les facteurs limitants, c'est pas vraiment l'eau, c'est les sols. C'est ça le point rare. Avec cette catastrophe qu'on est en train de les gaspiller, nos sols. On urbanise à l'échelle de l'Europe un département français par an. Donc on n'a absolument pas compris l'importance de préserver la ressource en sol que nous possédons. Un département français par an. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Tout ça en construisant des aéroports, des routes, des gares, des ceci, des cela, des logements, pavillons, etc. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. On ne peut pas gaspiller nos sols. Dans les pays en développement, il y a aussi cette urbanisation. Mais il y a en plus une dégradation de la qualité des sols, essentiellement par la salinisation dont je vous ai déjà parlé avec l'image de la palmeraie. Quand je vous dis qu'on peut nourrir la planète, il faut augmenter les surfaces d'agriculture pluviale. L'agriculture pluviale, s'il pleut, il y a quelque chose, il y a un écosystème, il y a ça, il y a la forêt tropicale. On ne va pas défricher en plein Sahara, il n'y a rien à défricher, il ne poussera rien. Donc on va se mettre à les endroits où il y a ça, des belles forêts. Ben, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. Donc vous voyez, celui qui souffre, alors j'arrive à la fin, bon ça c'est la même chose pour la forêt nordique, je ne l'ai pas dit, mais avec le changement climatique, les grandes forêts de mélèze du nord de l'Europe vont pouvoir être défrichées pour faire de la culture de céréales. On va gagner en hectares cultivables dans l'Europe du Nord ou le Canada du Nord. Donc ça aussi, ça disparaît, gone with the wind. Et c'est lui qui souffre. Donc je reviens à mon transparent départ et c'est mon dernière image. On peut nourrir la planète. Le problème, vous l'avez vu, le problème de l'eau, si on se met tous ensemble et si on le règle de façon globale, c'est-à-dire avec un commerce qui permette d'amener de A à B les produits qu'on a besoin, oui, c'est faisable. Qui est-ce qui trinque ? C'est lui. C'est les écosystèmes. On est en train d'augmenter notre part de prélèvement sur les ressources naturelles de la planète, et lui et Sautre et tous les autres systèmes qui ont besoin d'eau se trouveront avec la portion congrue parce que nous aurons tout pris. Donc voilà, pour moi, le problème de l'eau se traduit par un problème de nourriture, ce problème de nourriture se traduit par des dégradations à l'environnement, et ces dégradations de l'environnement se font et posent le problème de la biodiversité. Et je crois que c'est un des points les plus fondamentaux avec lequel la planète aura à faire face. Je vous remercie.
C'était Guylain de Marcilly, spécialiste des questions de l'eau dans le monde, pour une conférence donnée au Bureau des Longitudes en mai 2011 sur les problèmes de l'eau à venir au XXIe siècle. Restez à l'écoute de nos retransmissions et téléchargez dès maintenant les autres conférences du Bureau des Longitudes sur le site de Canal Académie, dans les émissions En Colloque, rubrique Science. Et puis les conférences du Bureau des Longitudes sont ouvertes au public. Pour connaître les prochaines dates, connectez-vous sur leur site www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.